Les Clés de Saint-Pierre, une émission présentée par Camille Langlade.
Le Journal du Pape a fêté ses 145 ans, l'occasion d'inaugurer à Rome une exposition retraçant l'histoire de l'Osservatore Romano. L'approche historique est originale, elle permet de constater l'évolution d'un journal créé à l'origine pour défendre les papes en 1861, quelques mois après la proclamation du Royaume d'Italie, un journal d'opposition devenu peu à peu porte-voix des messages de paix et de solidarité des 11 papes qui se sont succédés depuis sur le trône de pierre. Les rédactions de l'Osservatore Romano se trouvent à l'intérieur du Vatican, 7 langues de publication, italien tous les jours et puis chaque semaine l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le portugais et le polonais. Des rédactions animées par des laïcs dont le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone a loué le travail et l'inventivité mis au service du message de l'Évangile. 145 ans plus tard, que reste-t-il de ce journal des papes? Comment l'Osservatore Romano s'adapte-t-il aux évolutions technologiques comme Internet? Des versions en chaque langue sont désormais disponibles sur le site du Vatican, www.vatican.org. Et sur le fond, comment le quotidien répond-il aux changements géopolitiques? Il existe donc une rédaction polonaise née sous Jean-Paul II. Et aujourd'hui, souvenez-vous, le discours de Ratisbonne a été traduit en arabe après le voyage de Benoît XVI en Bavière, une révolution discrète au sein de cette institution implantée à l'ombre du palais pontifical. Marco Impagliazzo est historien en charge de l'exposition. Il revient sur les changements qu'a subi l'Osservatore Romano depuis la publication de son premier numéro, le 1er juillet 1861.
Ce qui a changé, c'est l'ouverture de l'Osservatore Romano à la vie politique et sociale de Rome, de l'Italie et du monde entier. Et surtout, beaucoup de choses sont changées dans la veste typographique du journal. Les titres, par exemple, tout au début du journal, il n'y avait pas de titres. Maintenant, surtout avec la dernière direction du professeur Agnès, on a vu le journal devenir un peu un journal de combat. Avant la guerre du Golfe, la dernière guerre en Irak, dans les mois de février 2003, l'Osservatore Romano a titré « Mai, jamais ». Un titre pour éviter la guerre en Irak, ou bien les grands titres « Merci, grazie » pour honorer la mort de Jean-Paul II, ou les mêmes titres « Grazie » pour la fin du grand jubilé de l'année 2000. Ce qui est resté égal, c'est la fidélité au pape. L'Osservatore Romano est toujours le journal du pape, si bien qu'il n'est pas l'organe officiel du Saint-Siège. C'est-à-dire que quand l'Osservatore publie les discours du pape, c'est officiel. Il y a un petit revue qui s'appelle Nostre Informazioni où il y a la publication des nominations des évêques et officielle. Mais le journal, le Saint-Siège n'a pas un organe officiel, ne s'exprime pas à travers l'Osservatore Romano, l'opinion officielle du Saint-Siège.
Cela veut dire que dans la section italienne, puisqu'il y a également d'autres langues, les journalistes ont une certaine liberté d'interprétation. Comment est-ce que vous expliquez cette nuance ?
Oui, c'est-à-dire que c'est un journal comme les autres, il y a une certaine liberté. Je dirais que dans l'exposition, on voit bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Rome et l'Italie étaient sous la dictature fasciste, l'Osservatore Romano est resté une voie libre, indépendante, et a toujours parlé de paix contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc les journalistes avaient une grande liberté, mais évidemment un peu liée à l'opinion officielle du Saint-Siège et du pape.
Vous dites que l'Osservatore Romano est un journal presque comme les autres journaux, donc il est confronté à Internet, les nouveaux défis de notre temps. Comment est-ce que l'Osservatore Romano réagit aux défis d'Internet ?
Je ne suis pas spécialiste de l'Osservatore dans ce sens, mais je crois que l'Osservatore réagit aux défis en restant lui-même. C'est le journal du pape, donc en continuant à publier tous les discours du pape. Et puis, surtout, je crois qu'il y a la deuxième page de l'Osservatore qui est dédiée à la politique internationale, qui est pris beaucoup les nouvelles des agences de presse, d'Internet, et réagissent beaucoup. Et beaucoup du public, il est content de cette page. parce que normalement les journaux italiens ne sont pas très ouverts à l'international, et donc l'Osservatore reste toujours un journal entre Rome et le monde entier.
Après le discours de Ratisbonne, l'Osservatore Romano a publié le discours traduit en arabe. C'est un énorme changement de l'Osservatore Romano au cours des dernières années. Vous pouvez le commenter ?
Oui, c'est un choix d'être fidèle au pape et de se faire la voix du pape dans le sens vrai du terme, c'est-à-dire de s'exprimer, de parler en arabe au monde musulman. L'arabe, c'est la langue de beaucoup des pays musulmans, et l'Osservatore a tenu à que le public musulman comprenne bien les paroles du pape après Ratisbonne.
Comment l'Osservatore Romano a fait à l'intérieur de sa rédaction pour traduire ce texte ? Est-ce qu'ils ont recruté depuis un journaliste arabe, par exemple, de langue arabe ?
Non, je crois qu'il y a beaucoup d'Arabes qui travaillent, soit des prêtres à la secrétaire d'État, soit des laïcs qui travaillent à la Radio Vatican. Vous connaissez mieux que moi, donc je pense qu'ils nous sont servis de ces peuples.
Une dernière question sur l'exposition. Quel moment fort de l'histoire, de la papauté et surtout du journal faut-il retenir ?
Le moment fort, c'est la grande lutte de l'Osservatore Romano pour promouvoir la paix et pour donner une écho très grand à la voix du pape pour la paix. Et donc le XXe siècle a été le siècle de grandes guerres mondiales, le siècle où on a commencé à voir le terrorisme dans la fin du siècle, et l'Osservatore a toujours parlé de paix.
Et de dialogue ?
Dialogue entre culture et religion, il y a un panneau et dans la section introductive où on voit bien les premières rencontres de Paul VI avec le patriarche Athénagoras de Constantinople et la levée des excommunications entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Et puis la grande rencontre d'Assise 86, quand le pape Jean-Paul II a convoqué toutes les religions pour prier pour la paix. Et le voyage de Paul VI aux Nations Unies, le premier discours d'un pape à l'Assemblée des Nations Unies, donc à tous les peuples du monde et les cultures du monde.
C'était Marco Impagliazzo, commissaire de l'exposition et historien, commissaire de l'exposition intitulée « L'Osservatore Romano de Rome au monde, 145 ans après sa naissance ». Quel est donc le grand défi du quotidien du pape aujourd'hui ? Mario Agnès, son directeur depuis 22 ans, nous répond.
« Dire un grand défi à la fede ».
Dire un grand oui à la foi, comme l'a dit le pape à Vérone, dire un grand oui à la foi et faire en sorte que la foi ait droit de cité, c'est le point fondamental qu'en ce moment le directeur que je suis porte dans son cœur et communique à tous.
145 ans d'histoire à travers les pages du journal du pape, c'est une exposition à voir dans le palais de la province de Rome, en plein centre de la ville éternelle, jusqu'au 10 novembre.